France Musique. Les grands entretiens, Lionel Esparza, France Musique.
Je suis William Christie, je suis né le 19 décembre 1944 dans la ville de Buffalo et je suis chef d'orchestre.
Christie, à ces années d'Harvard, vous y arrivez en 1962, si je comprends bien, vous avez 18 ans, tout juste donc. Et Harvard, en fait, vous n'étudiez pas la musique là-bas, pas la médecine non plus.
Mais c'est-à-dire que là, j'étais à 17 ans, j'avais des cours de médecine, effectivement. Oui, oui.
Et ça vous a plu, ça?
Non. Disons fait que là, j'ai commencé quelques années où j'ai essayé beaucoup de choses. Mon père m'a dit un jour, enfin, j'ai dépensé beaucoup pour que tu saches ce que tu ne voulais pas faire. Oui.
Comme quoi, c'était des parents qui étaient vraiment compréhensifs et très à l'écoute.
J'avais des parents assez extraordinaires, oui.
Donc Harvard, j'y reviens. Histoire de l'art, c'est pas histoire de la musique que vous faites ou
non
musique.
Mais ça a commencé. L'histoire de l'art, en effet, c'était une sorte de compromis. Voilà, j'ai commencé dans les biochimie et tout cela. Oui. Ensuite, bon, c'était d'abandonner en faveur de l'histoire. Ensuite, history and lit, toujours avec une forte dose de musique aussi, parce que tous les ans, je pouvais opter pour les classes de contrepoint ou les classes de l'histoire de la musique, ou etc. Et puis l'histoire de l'art aussi, parce que, bon, je suis un visuel. C'est un aspect de ma personnalité qui reste très, très important. L'art, l'histoire de l'art, ça a une grande importance pour moi et qui a beaucoup influencé la musique aussi. Voilà. Et tout ça, toutes ces disciplines, si j'ose dire, dans l'espace de 4 ans de collège. Voilà.
Et qu'est-ce qui fait qu'à un moment la musique prend le dessus?
Mais cette année que j'ai joué pour le Radcliffe et Harvard Radcliffe Choral Society, donc comme pianiste, j'avais une bonne base de piano et ça continuait. Il y avait cette immense et très très forte tradition d'amateurs à Harvard. C'est-à-dire que il n'y avait pas de conservatoire à Harvard. On pouvait pas étudier la musique en dehors de la musicologie. On pouvait faire de la musique tous les jours. Même si on était dans des programmes extrêmement différents et très éloignés de la musique, en quelque sorte.
C'était toujours en plus.
En plus. Dans le house, là, qui est équivalent à un collège d'Oxford, de Cambridge, il y avait un cycle de des cantates de Bach, que moi j'ai animé. J'ai travaillé presque tous les dapantés de Mozart, par exemple. Oui. Donc, un travail de musique d'amateur très intense. Oui. Très intense.
Donc à partir de quel moment vous dites amateur c'est très bien, il faut que je passe professionnel ou j'ai envie de faire ma vie dans la musique?
Le moment de vérité où je me suis regardé fixement dans la glace en disant mais qui es-tu? Qu'est-ce que tu veux faire avec ta vie? Ça, oui, j'étais un junior, donc c'est ma troisième année. Et à Harvard, je me suis dit, mais écoute, que tu sois un peu plus honnête avec toi-même. Enfin, la seule chose que tu aimes vraiment dans la vie, c'est la musique. Et chaque fois que tu veux t'exprimer avec ta joie ou tes problèmes ou ta douleur, c'est la musique. La musique, c'est ton compagnon fidèle. Enfin, tu meubles ta solitude avec la musique. Enfin, quand tu cherches quelque chose, n'est-ce pas, de plaisant et de jouissif, mais c'est la musique. Donc, voilà, que tu sois musicien. Et ça, c'est bien tombé, parce que, en effet, il y avait des rencontres et les moments très intenses. Je me souviens de cette année. Il y avait la découverte, justement, du répertoire Rameau, grâce au disque. Et puis, aussi grâce à un concert que j'ai entendu, c'était un concert donné par Alan Curtis, qui a donné à Sanders Theatre. C'était en 64-65, la naissance d'Osiris de Jean-Philippe Rameau. Et puis, peu après cela, il y avait l'apparition d'un enregistrement avec Janet Baker qui chantait le rôle de Phèdre. Et là, ma vie a été profondément bouleversée par ce répertoire qui s'est révélé subitement. Et puis, il y avait l'arrivée aussi à Harvard de Ralph Kirkpatrick. Il y avait deux concerts, un samedi soir et un dimanche après-midi, où il jouait les deux volumes, les deux livres du Clavecin bien tempéré, par cœur, mémorisé. Et là, j'étais dans un état de grâce. Tout ça, c'était très concentré. La décision d'abandonner effectivement tout le reste, de m'appeler, n'est-ce pas, musicien, et puis ces moments d'épiphanie, c'était tout ça composé de quelques mois. C'était très intense. Le résultat, c'est quoi? J'ai travaillé énormément le clavecin. Mon père, gentiment, avait acheté un petit instrument. Et j'ai fait, l'audition pour la classe de Monsieur Kirkpatrick à Yale.
Vous y arrivez en 1966. C'est un moment très important parce que vous nous dites bien, c'est la première fois que vous considérez vraiment comme un musicien professionnel. Vous avez envie de le devenir et vous tombez sur un professeur, on va rappeler en quelques mots, qui était Kirkpatrick, très grand claveciniste, mais musicologue aussi. Mmh. C'est lui qui a fait le premier grand catalogue des œuvres de Scarlatti, mais une personnalité difficile.
Oui, mais là aussi, je me suis même pas rendu compte de l'importance à l'époque de cette rencontre, et puis surtout le fait qu'il m'accepte, n'est-ce pas, d'être un élève. Je me souviens de ce premier moment où j'avais le grand maître dans son studio en m'écoutant, n'est-ce pas? Oh, mais c'était absolument à la fois exhilarant, mais très décevant aussi, parce que j'avais préparer un programme, il y avait Scarlatti, il y avait Couperin, un peu de Rameau, et une suite de d'Handel, je me souviens. Alors il me dit, oui, mais je vois que vous êtes plutôt pianiste, n'est-ce pas? Ah, je dis oui, mais cette année, le clavecin, c'est depuis que le catalyseur, c'est vous, n'est-ce pas? Oui, mais écoutez, voici un piano. On était dans un immense studio, une sorte de caverne assez sombre. Il y avait son clavecin, et puis d'autres instruments anciens, enfin une épinette, enfin un petit orgue. Et puis, il y avait un immense piano de l'autre côté du studio. Et il me dit, c'est un piano qui appartenait à Wagner. Il me dit, qu'est-ce que vous pouvez me jouer au piano ? Oh, je dis, mais monsieur Kirkpatrick, ça, je suis ici pour vous jouer du clavecin. Oui, 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 mais vous savez, ça m'intéresse peut-être moins que ce que vous pouvez me faire. Alors je me suis dit, merde, ça c'est le moment décisif. Alors j'ai joué, je me souviens, l'opus 14 numéro 1 de Beethoven, que j'avais mémorisé pour ma prof à Buffalo. Et puis j'ai joué un Fantasiestück de Schumann. Et puis j'ai mutilé le début d'une étude transcendante de Liszt, les harmonies du soir. Oh, alors, il m'a absolument rien dit. Alors, j'ai quitté Yale, pensant enfin que bon, c'était intéressant, enfin voilà, mais et puis il m'a téléphoné à Harvard en disant enfin qu'il serait très content que je vienne au début de l'année scolaire, enfin n'est-ce pas, voilà, chose étonnante, étonnante.
Les grands entretiens, Lionel Esparza, France Musique.
On tourne la page, je quitte Harvard pour Yale. C'est un lieu que je garde toujours une grande affection pour cette institution. J'ai appris beaucoup de choses. Une façon peut-être de vivre ma vie, intellectuellement parlant, une certaine discipline. Kirkpatrick demandait de ces quelques élèves, il n'avait jamais plus que 3 ou 4, une sorte d'obéissance, de rigueur, qui était très différent, cette attitude très libérale que j'avais connue à Harvard.
Mais jusqu'à être un petit peu dur parfois avec certains élèves, je crois.
Oui, cette année, il était très dur avec lui-même. Un homme, à mon avis, profondément malheureux, pour beaucoup de raisons. Un vieux Yankee, en quelque sorte, n'est-ce pas, avec cette espèce de discipline à la protestante, que j'avais bien connue aussi, moi, n'est-ce pas, issu d'une famille aussi calviniste, voilà. Mais il voulait effectivement, en quelque sorte, faire que tout le monde autour de lui vive cette même rigueur et cette même discipline. Moi, je l'ai accepté au début. Il y avait d'autres, au bout de quelques mois, un an, c'était trop difficile. Il y avait Blandine Verley qui est arrivée pour étudier. Et là, avec sa personnalité à la française, n'est-ce pas, il ne pouvait absolument pas accepter ce genre de discipline, absolument. Mais cette sévérité, n'est-ce pas. Voilà. Et il y avait un moment où j'étais son seul élève.
Ah oui, il avait fini par chasser tout le monde, en fait.
Bon, sur le plan positif, il avait des choses extraordinaires à transmettre. Le travail sur Couperin, il parlait français. Car il disait, n'est-ce pas, la musique baroque, c'est un langage. C'est la musicalité de la langue française qui donne effectivement naissance à une musique. Et il a raison, en fait. Il y avait mouvement, danse, et puis la langue. Quand il enseignait Bach, ben, il parlait allemand. Il était un prodigieux intellectuel et linguiste. Mais cette idée fait qu'on devenait complètement esclave, dépendant à ses caprices, ses humeurs, enfin, n'est-ce pas, là aussi c'était très difficile. Je me souviens, un jour, elle me dit « Ah, je sais que vous n'êtes pas attendu par votre famille pour les fêtes de Noël, puisque vous avez un poste d'organiste dans l'église épiscopale à Yale. » Je dis « Oui, mais c'est vrai. » Elle me dit « Ça veut dire que vous pouvez venir me donner un coup de main pour quelques petits projets que j'ai chez moi pendant les vacances de Noël. » Je dis « Si vous voulez. » Bon, alors j'ai pris ma petite voiture, enfin, c'était je crois le 27 décembre, j'arrive à sa maison, enfin, une merveilleuse petite chose, enfin, qui dominait effectivement une sorte de falaise, enfin, en granit, enfin, littoral, enfin, de Connecticut, et pendant deux jours, on repeignait les sols de son salon. Voilà. Et je disais, mais pourquoi est-ce que vous faites ça, surtout en ce moment? Il me dit, c'est pour tout simplement oublier les choses. Alors je disais, mais expliquez-moi ça. Mais parce que la personne que j'aimais dans ma vie, n'est-ce pas, m'a quitté à Noël, il y a une quinzaine d'années. Et c'est pour tout simplement, n'est-ce pas, vivre quelque chose de physique et dur. Comme ça, je peux oublier, effectivement. Je dis, mais. Et maintenant, je suis impliqué dans tout ça. Que ses élèves réussissent. C'était la jalousie. Et ça, c'est une chose terrible. Il avait des gros problèmes de santé, il était en train, à l'époque, de devenir aveugle. Et donc, sa carrière comme interprète est commençait à être un tout petit peu diminuée, n'est-ce pas? Et je me souviens que il ne voulait pas que je joue en public. Pourquoi? Parce que vous êtes toujours un étudiant et vous avez tellement de choses à apprendre et vous n'êtes pas prête, justement. Et bon, c'est la fin était difficile. j'ai joué un récital à Dartmouth College, dans le New Hampshire. Et j'aimais beaucoup jouer à un public, ça m'a stimulé. Il a entendu parler de ce, et ça a déclenché une sorte de fureur. Ah, vous n'avez pas demandé ma permission d'aller jouer avec cette médiocrité qui est votre, vous n'êtes pas prêt. Bon. Je suis arrivé à une impasse, tu vois. Et puis, à la fin, j'ai joué, mon récital pour, avant mon diplôme, et ça a très bien marché. Il n'était pas là. Il a boycotté, effectivement, mon récital de fin d'études. Voilà. Mais aujourd'hui, quand je parle de lui, c'est certainement parmi les plus grandes présences, les personnalités les plus fortes que j'ai jamais rencontrées. Mais il avait, comment dire, cette extravagante honnêteté intellectuelle aussi. Et la musique française était sa spécialité. Et la vocalité de la musique instrumentale, qui est vraiment d'une grande importance. Cet aspect linguistique, effectivement, d'une musique de François Couperin, c'est lui qui a parlé de ça. Il m'a dit, tu sais, pour mieux comprendre ce que tu fais, enfin, qui est assez stupide comme interprétation, enfin, n'est-ce pas? Écoute, voici le texte de Bénigne de Bassilly. Les remarques curieuses sur l'art du bien chanter. Le grand texte du chant de cette époque, enfin de Michel Lambert, enfin d'autres compositeurs pour la voix. Il me dit, traduis effectivement enfin, les chapitres 11 et 12 et 13, enfin, qui traitent enfin, l'ornementation, la vocalité, effectivement. Enfin, ben, ça m'a ouvert les yeux.
Oh,
je me suis plaint 100 fois de Michel Lambert, chanté par les membres des Arts Florissants, dirigé par William Christie. Un grand merci à Flora Sternadel, Marie Groux, Yvan Charbier et Valérie Lavalard. Je vous retrouve demain pour le troisième volet de nos grands entretiens, William Christie.
À réécouter sur francemusique.fr.